Et au milieu de notre club cet après-midi, il y a les femmes scientifiques de l'année, les enfants de la rue, donc effectivement les fous de la course à pied. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, le télescope spatial européen Gaïa, qui vient de réaliser la carte la plus précise des étoiles dans la Voie lactée.
Et oui, 1 milliard d'étoiles dans un atlas qui donne la position exacte de toutes les étoiles, des données très attendues par les scientifiques, on en parle dans un instant.
Émission réalisée par Stéphanie Texier, qui a été préparée par Mahmoud Mebarek avec Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités Françoise Briquet-Chatonnet, Nathalie Carrasco, Xavier Emmanueli et Jean-François Dortier. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Françoise Briquet, vous avez reçu le prix de la femme scientifique de l'année dans le cadre du prix Irène Joliot-Curie. Nathalie Carrasco, celui de la jeune femme scientifique. Bravo à toutes les deux, félicitations. Est-ce que ça avance l'égalité femme-homme dans le monde de la recherche?
Ah oui, je le crois vraiment.
Françoise Briquet, ouais.
Oui. Et je suis en plus dans une science humaine où ce n'est peut-être pas l'endroit où le problème est le plus aigu.
Dans le domaine de l'histoire.
Voilà.
Ouais, il y a plus de femmes là, qui travaillent dans ce
oui,
secteur.
Certainement plus que dans l'informatique, oui.
Ouais. Nathalie Carrasco, les choses s'améliorent. Vous travaillez beaucoup pour ça en tout cas, vous, hein, on va le voir. Hein.
Oui, oui, je vous en parlerai plus, mais effectivement, les choses s'améliorent doucement. Et puis, je pense que ce prix, c'est un symbole et que je l'ai eu effectivement pour aider à faire progresser cette question-là.
Et vous avez reçu vos prix dans le cadre d'une grande conférence cette semaine sur l'égalité, justement, femmes-hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Xavier Emmanueli, vous publiez chez Odile Jacob « Les enfants des rues, une clinique de l'exclusion ». C'est un phénomène d'abandon à grande échelle, finalement, hein, que vous décrivez dans cet ouvrage.
C'est un scandale planétaire.
Ouais.
Il n'y a pas un pays, même ceux qu'on croit développer, qui connaissent l'exclusion, et en particulier l'exclusion des enfants. J'appelle enfants, ça va de 4 à au-delà de 20 ans.
Oui.
Et il faudrait peut-être se pencher sur cette clinique très particulière, qui est la clinique de survie des enfants à l'abandon dans les villes.
On y reviendra avec vous donc tout à l'heure. Et puis Jean-François Dortier, vous êtes un pratiquant de la course à pied depuis plus de 30 ans, et vous publiez « Après quoi tu cours ?» D'où vient cette question?
C'est une question qu'on m'a posée un jour, justement. Je sortais un samedi matin pour aller faire ma course du week-end. Et puis, voilà, je crois que c'était un SDF un peu aviné qui m'a dit « Mais pourquoi tu cours ?» La question était un peu intrigante parce qu'effectivement, il se moquait un peu de moi. On est des citadins pressés, on court le samedi quand même en plus pour faire une dizaine de kilomètres et revenir sur ses pas. On court autour des parcs, certains courent sur des tapis de course. Il y a aujourd'hui plus de 10 millions de Français qui courent, 50 millions d'Europe, partout dans le monde. Ça mériterait de mener une enquête sur les motivations qui nous poussent à courir.
Un livre pour comprendre les coureurs en particulier et les humains en général. Jean-François Dortier, on en parlera avec vous tout à l'heure. Et à la une de la science aujourd'hui, les milliards d'étoiles du télescope Gaïa qui était mis en orbite en décembre 2013.
3, 2, 1, top, décollage.
Connaître l'existence des étoiles entre elles, c'est juste la base de l'astronomie. C'est pourquoi nous sommes tous très impatients d'avoir les résultats de Gaïa.
3 ans plus tard, les 450 chercheurs européens qui travaillent sur le projet dévoilent donc une carte du ciel composée de plus d'1 milliard d'étoiles visibles. Et ça n'est qu'un début. Bonjour François Mignard.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'équipe scientifique de Gaïa, vous travaillez à l'Observatoire CNRS de la Côte d'Azur, et puis avec nous en studio Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. 1 milliard d'étoiles, c'est un chiffre évidemment symbolique, c'est la première vague de cette publication, François Mignard?
Oui, oui, c'est la première étape qui vient juste 1000 jours après le lancement, où les observations du satellite ont pu être traitées pour fournir ce premier catalogue de 1 milliard 140 millions d'étoiles. Le plus large catalogue jamais publié, c'est-à-dire la liste la plus grande d'objets de la Voie lactée, pour l'essentiel, qu'on ait réalisé, mais surtout la plus précise. C'est là où est le vrai défi technique et scientifique, beaucoup plus que l'accumulation du nombre.
Alors, Philippe Hénarejos, 1 milliard par rapport à ce qu'on voit à l'œil nu, c'est énorme, mais par rapport à notre galaxie, ça représente combien?
Ça représente encore très peu.
Oui.
Je crois que c'est de l'ordre du pourcent.
par rapport au nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie.
Donc 100 000 milliards d'étoiles à peu près.
Il doit y avoir 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, quelque chose comme ça. Donc malgré tout, c'est un énorme progrès parce que jusque là on voyait encore beaucoup moins que ça, peut-être 10 fois ou 100 fois moins que ça, malgré un satellite précédent qui avait été envoyé déjà par l'Agence spatiale européenne qui s'appelait Hipparcos dans les années 90. Et donc oui, c'est déjà un gros progrès parce que on a beau voir la Voie lactée comme ça, on n'en voit qu'une toute petite partie et il faut commencer à la cartographier pour continuer à faire de la science de plus en plus précise.
François Minière, on parle de la précision de Gaïa, mais quelle différence avec les autres images dont parlait Philippe Hénarejo, ce qu'on avait obtenu avant Gaïa?
La précision, c'est à la fois la capacité à voir des objets proches qui, dans le passé, étaient vus comme une seule source, parce que c'était des plaques photographiques, pour l'essentiel, donc des objets qui sont trop proches l'un de l'autre sur le ciel apparaissent comme une seule source, donc il n'y a pas de numéro de catalogue, il n'y a qu'un seul numéro. Gaïa, pour ces objets-là, va être capable de dire, ben voilà, en fait, il y en avait trois, voire quatre, dans cette source que l'on croyait unique. Ensuite, la précision, c'est aussi la localisation, c'est-à-dire avec quelle précision on peut dire c'est dans telle direction, combien on a de chiffres significatifs dans les coordonnées. Gaïa améliore la situation précédente d'un facteur 100. Et c'est là vraiment le saut qui est fait en termes scientifiques, parce que connaître la position des objets avec un facteur 100, ça veut dire que très rapidement, en comparant deux mesures faites à 2 ans d'intervalle, on va pouvoir avoir également leur déplacement, ce qui était impossible du sol avec des mesures qui étaient 100 fois plus mauvaises.
Et du coup, sur ce milliard, combien sont de nouvelles étoiles qu'on ne connaissait pas du tout ?
Qui n'étaient pas cataloguées, c'était l'ordre de 400 millions.
Ah oui, quand même.
Dans ce catalogue, on s'aperçoit qu'il y en avait 400 millions qui étaient sur aucune liste précédente.
Mais comment on fait pour travailler sur une telle somme d'informations, François Mignard ? Ce sont les ordinateurs là qui travaillent pour vous ?
Tout ça va de pair avec le progrès de l'informatique, à la fois dans la capacité de stockage, la vitesse avec laquelle sont faits les calculs et la rapidité d'accès aux données localement ou par le biais des réseaux. Sans ces progrès qui vont en parallèle, effectivement, il n'y aurait pas de mission Gaïa. Ça serait totalement impossible à faire.
Avec seulement la position des étoiles, on peut déjà commencer à faire de la science, Philippe Hénarejos ?
Oui, certainement, parce que les astronomes ont besoin de positions précises. Plus ils regardent de loin ou plus ils regardent des objets petits, plus ils ont besoin de précision. Or, le référentiel, souvent, ce sont des astres qui se trouvent assez loin. Alors, parmi les objets qui ont été répertoriés par Gaïa, on parlait de beaucoup d'étoiles, essentiellement 1 milliard d'étoiles qui sont dans notre galaxie, mais il y a des sources qui sont beaucoup plus lointaines que ça, qui sont des quasars, sont des noyaux de galaxies très brillants. En fait, ils sont très brillants dans l'absolu, mais en fait, comme ils se trouvent très loin, ils brillent très peu. Donc, Gaïa les a intégrés à cet atlas, et il y a un maillage, je pense sous le contrôle de François Mignard, il y a 120 000 quasars qui ont été vus et positionnés très précisément par Gaïa, ce qui veut dire que ces sources qui sont très lointaines sont aussi très fixes et permettent d'avoir un référentiel de coordonnées dans le visible pour tous les observatoires. Par exemple, si vous découvrez un astéroïde, peut-être même un astéroïde qui va être géocroiseur et qui va venir frôler la Terre, eh bien, si vous êtes capable de le positionner aussi précisément que ça grâce à un quasar qui sera pas très loin de la position où il a été découvert, eh bien, vous arriverez à tracer son orbite très rapidement et très précisément, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Ce n'est qu'un exemple. Mais après, il y a tout un tas de phénomènes mouvants, que ce soit dans le système solaire ou dans la Voie lactée, qui ont besoin de cette référence absolue et précise, et à partir de laquelle tout un tas de recherches vont être possibles. Il faut voir que cet atlas, c'est un atlas, c'est un catalogue, c'est une base de données énorme à partir de laquelle divers astronomes dans divers domaines de l'astronomie vont pouvoir faire des recherches et donc des découvertes.
Ouais, donc François Mignard, c'est une avancée considérable de la connaissance et une façon de perfectionner la cartographie du ciel.
Oui, à ce stade, on est au stade de la cartographie, mais comme je l'ai indiqué, c'est une étape, c'est 1000 jours de la vie de Gaïa. Gaïa, c'est une mission qui dure 5 ans, probablement un peu plus, et dont les objectifs ne sont pas simplement de donner la position, mais de donner la distance de ces étoiles et de leur donner leur mouvement. Et là, quand on aura complété cet ensemble d'observations, il y aura réellement du nouveau dans la science, beaucoup plus que dans la simple cartographie qui est déjà énorme, puisque c'est une étape qu'il faut absolument franchir pour savoir sur quels objets on va continuer à travailler.
Et ça fait 2 jours, François Mignard, que les données sont disponibles pour tout le monde. Est-ce qu'elles ont commencé à intéresser la communauté scientifique ?
Ben oui, il y a déjà eu 20 terabytes chargés, environ 100 000 accès. Et ce matin, il y avait un article qui est soumis dans les archives qui montre la rotation du grand nuage de Magellan, c'est-à-dire une galaxie satellite de la nôtre qui est à 150 000 années-lumière, puisque dans ce catalogue, il y a un petit sous-catalogue de 2 millions d'objets pour lequel on a déjà les mouvements. Et ils ont trouvé 29 étoiles de ce petit catalogue qui est dans le nuage de Magellan. Et l'image qu'ils ont produite, qui est maintenant sur le site de l'ESA, montre clairement la rotation du nuage de Magellan. Lorsque Gaïa aura fini sa mission, c'est pas 29 étoiles qu'il y aura avec des mouvements dans ce nuage, c'est probablement entre 1 et 10 millions. Voilà la différence.
Une toute petite question pour terminer. Est-ce que les gens qui ne sont pas chercheurs peuvent voir ces images quelque part produites par Gaïa ?
Alors, toutes les données Gaïa sont entièrement disponibles à tout le public, astronome, non professionnel, amateur du ciel, amateur de poésie, qui ont envie de voir leur propre étoile, ils peuvent accéder totalement à la base de données. Bien évidemment, il faut avoir une certaine connaissance astronomique pour savoir quoi aller chercher, mais à la base, c'est totalement accessible. L'image dont je parle là, elle est accessible directement en cliquant sur le site de l'ESA, Gaïa. Vous l'avez en première page, vous voyez ces petites flèches qui vous montrent la rotation du nuage de Magellan, calculée il y a 2 jours. À partir des données Gaïa.
Bon, bah, il y en a 1 milliard d'étoiles, il y en a pour tout le monde, hein, finalement. Est-ce que, juste dernière question, très très vite, François Mignard, est-ce que tous les 1000 jours, vous allez découvrir 1 milliard de nouvelles étoiles ou pas ?
Non, le recensement, il va être un peu plus grand. Hein. Aujourd'hui, ouais. Il y en a 1 milliard, peut-être qu'il y en aura 1 milliard 4, 1 milliard 5, mais là, on commence à avoir la base sur laquelle on va travailler. Simplement, on va augmenter à la fois la précision et rajouter des données qu'on n'a pas aujourd'hui. Pas simplement position, vitesse, distance, mais couleur, température pour beaucoup d'étoiles, la masse, la composition chimique. Tout ça, ça fait partie du programme Gaïa sur les 5 ans à venir.
Et vous allez toutes les nommer ou pas ?
Ah ces étoiles. Pardon ? Vous allez... Non, on nomme pas les étoiles. Les étoiles, elles ont un numéro. Voilà, c'est un gros numéro.
C'est déjà pas mal. Merci beaucoup François Mignard, merci à vous, merci Philippe Hénarejos, ciel et espace bien sûr pour un complément d'information et puis Axel à lundi
et
pour
bon
une
nouvelle
lune. Bon week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 18 000 Anglais auraient arrêté de fumer grâce à la e-cigarette, c'est ce qu'affirme le British Medical Journal, un peu moins d'un adulte sur 5 fume au Royaume-Uni. Dans ce pays, les services publics proposent une aide à l'arrêt du tabac, incluant conseils et prescriptions, mais pas la e-cigarette, pourtant utilisée par 2,8 millions de personnes au Royaume-Uni. Les auteurs des travaux déplorent que les 18 000 ex-fumeurs recensés par cette étude présente un chiffre relativement faible. Il faut donc rester prudent puisque cette étude n'est pas un essai clinique. Impossible d'en tirer un quelconque lien de cause à effet entre l'utilisation de la e-cigarette et le nombre de sevrages. 3000 cerveaux vont permettre de mieux étudier les maladies psychiatriques. L'hôpital de Duffel en Belgique a reçu la plus importante collection de cerveaux de donneurs sélectionnés par un médecin anglais sur plus de 40 ans. Ils sont exploités à des fins de recherche, principalement sur la dépression et la schizophrénie. Cerveaux qui sont accompagnés d'un dossier médical tenu à jour jusqu'au décès du patient. Et ils offrent un grand avantage, celui de n'avoir pas été affecté par les traitements médicaux inexistants à l'époque. Et puis selon la NASA, les 8 premiers mois de l'année détiennent les records de température. 2016 devrait donc décrocher la première place du classement, détrônant 2015 au passage. Et puis Ferrari sim hier matin, une dépression subtropicale s'est creusée dans le golfe de Gascogne. Cette dépression unique possède des caractéristiques très particulières. Un cœur chaud surplombé par de l'air froid à très haute altitude. Un événement inédit à cette latitude, la tropicalisation non donnée à cette dépression est en train de se dissiper. Allez, le club dans un instant.
Before that girl, what
Parcells à l'instant.
Le club au carré sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, les femmes scientifiques de l'année, les enfants de la rue, le phénomène de la course à pied, donc avec mes invités, l'historienne Françoise Briquel-Chatonnet, la chimiste Nathalie Carrasco, le cofondateur de Médecins Sans Frontières Xavier Emmanuelli et le directeur de la revue Sciences Humaines Jean-François Dortier. Vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Cette semaine donc se tenait à Paris la 9e conférence européenne sur l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche, conférence à l'issue de laquelle ont été remis donc les prix Irène Joliot-Curie qui récompensent les femmes dans la recherche et les technologies. Justement, Irène Joliot-Curie, souvenez-vous.
Stockholm, 10 décembre 1935. Pour la troisième fois, le nom des Curie s'inscrit au palmarès du prix Nobel. Marie Curie l'a reçu deux fois déjà avec son mari en 1903, seule en 1911. Cette fois, c'est sa fille Irène et son mari Frédéric Joliot-Curie qui obtiennent le prix Nobel de chimie pour avoir découvert la radioactivité artificielle quelques mois plus tôt, en 1934, il y a 30 ans.
Voilà, trois prix Nobel hein, dans la famille, justement, Marie Curie, Irène Joliot-Curie. Françoise Briquet-Chatonnet, vous avez reçu donc le prix de la femme scientifique. Nathalie Carrasco, celui de la jeune femme scientifique. On peut signer que Sylvaine Neveu a reçu le prix Femmes Recherche et Entreprise. Françoise Briquet-Chatonnet, vous avez apporté une contribution remarquable dans votre domaine, qui est l'histoire. Quelle est cette contribution ?
Je travaille dans deux domaines un petit peu différents, qui est l'histoire des en histoire ancienne sur les peuples du Levant au premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire grosso modo autour des Phéniciens et des peuples mentionnés dans la Bible.
Ouais.
Et puis un autre domaine, c'est sur les chrétiens du Proche-Orient. Donc dont la langue liturgique et culturelle est le syriaque.
Ouais.
Donc c'est un point commun que je travaille sur la même région, je travaille sur une langue très c'est à peu près la même langue, que je travaille sur des documents écrits, souvent inédits dans les deux cas, mais donc ça m'amène sur un arc de temps assez...
Ouais. Alors long. On comprend le contexte de vos travaux, quelle est la contribution justement principale à ces recherches ?
Sur le plan de la recherche, de faire émerger de nouveaux documents et pour dans le monde syriaque, d'essayer de sortir ces études-là de la théologie,
oui,
pour les faire, les amener plus à l'histoire peut-être, de découvrir mieux quelles étaient leur propre culture à travers leurs manuscrits.
Ouais. Et c'est tout un patrimoine que vous sauvegardez surtout, c'est ça, hein?
Et c'est un patrimoine que j'essaye d'enregistrer, effectivement,
oui,
de faire connaître. Et puis, parallèlement, effectivement, de me battre pour sauvegarder un patrimoine aussi bien archéologique que manuscrit, ouais, qui est très menacé, qui l'a toujours été plutôt par l'incurie, mais qui ces temps-ci est directement attaqué.
Par les guerres aussi, bien sûr. Jean-François Dortier.
Oui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, l'actualité nous parle des chrétiens d'Orient. Vous travaillez sur les Syriaques. On a toujours le sentiment aujourd'hui que c'est des communautés éloignées, un peu perdues du christianisme, en oubliant que les Syriaques, finalement, c'est les origines du christianisme. Saint Paul allait sur les chemins de Damas pour christianiser. Il y avait les premières communautés, non ?
Oui, tout à fait. C'est des communautés qui remontent, enfin, qui sont de la région de naissance du christianisme et qui utilisent encore une langue qui est sous une forme un petit peu différente. On dit toujours, enfin, ils sont très fiers de parler la langue du Christ. Bon, c'est une forme dialectale un petit peu différente, mais c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est très originel au christianisme et que c'est une chrétienté qui s'est quand même étendue selon les époques de la Méditerranée à la Chine et à l'Inde. Donc ce n'est pas négligeable.
Ouais. Donc ce sont des textes, des manuscrits. Concrètement, vous avez ces objets entre les mains aussi.
Voilà.
Ils sont parvenus à traverser les siècles.
Alors, il y en a qui ont traversé les siècles et c'est très émouvant.
Ce sont des miracles au fond, non ?
Ce sont des documents.
Si je peux me permettre ce mot.
Oui, il y a eu aussi beaucoup de gens pour les copier, les reproduire, en copier jusqu'au début du XXe siècle, s'en soucier, les relier. Donc c'est un patrimoine qui a aussi fait l'objet d'attention de la part de la communauté. Mais effectivement, dès qu'un couvent était ravagé, il y avait beaucoup de destruction. Mais c'est vrai que ces manuscrits comme objets sont aussi le résultat de l'action d'hommes. C'est-à-dire qu'on a la vie de ces manuscrits, on a le colophon, comme on appelle la note du copiste, qui dit « je l'ai copié en telle année et j'avais auprès de moi telle personne dans le couvent et à cette année-là, il s'est passé telle chose ». Donc ce sont des moments de vie qu'on saisit, même dans un manuscrit qui transmet un texte, par exemple, comme la Bible, qui est très connu.
Cette langue syriaque, justement, oui, à quoi elle ressemble ?
c'est l'araméen. C'est l'araméen, comme ça qu'on appelle l'araméen chrétien. Donc c'est une langue proche de la même famille, disons, que l'hébreu ou l'arabe, par exemple, qui est encore parlée dans des communautés sous des formes plus dialectales et évoluées dans un certain nombre de communautés du Proche-Orient. Donc qui a 3000 ans de vie, ouais, et qui est écrite avec un alphabet.
Ouais. Et alors les femmes dans votre discipline, elles sont nombreuses ?
Alors, dans ma discipline.
Parce que là, c'est du travail de terrain aussi, hein.
Voilà. Dans ma discipline, je suis entrée aussi bien dans ce que j'ai pu faire dans le monde biblique que là-dedans, dans un monde où, quand j'ai commencé mes études, où même en France, la plupart de ceux qui étaient formés l'avaient été à travers des études de théologie. Ouais. Donc, très peu de femmes. Je pense que j'ai été un peu un tournant et que, par contre, les personnes plus jeunes que moi qui s'y intéressent et sont plus issues de parcours d'histoire, ouais, de lettres ou d'archéologie, donc avec beaucoup de femmes. Je pense qu'en France, j'ai été un peu au tournant de la chose. Tous les chercheurs plus anciens que moi avec qui j'ai pu travailler ont tous été des hommes. Ça m'amène, et c'est là peut-être que je me sens plus concernée, parce que je crois que en France, il n'y a pas de réticence, c'est qu'un bon candidat homme ou un bon candidat femme a exactement les mêmes chances. Je pense que ce qui me motive aussi, c'est que travaillant sur le terrain, je travaille avec des gens des pays avec lesquels je suis amenée à travailler.
La Syrie, l'Inde, le Liban, voilà, par exemple.
Voilà, hein, par exemple. Et que même si dans certains cas, il y a une véritable volonté des gouvernements de promouvoir les femmes, et donc pas de blocage institutionnel, il y en a beaucoup plus sur le plan social. Et ouais, donc monter une mission syro-française avec comme co-directrice, comme partenaire, une co-directrice en Syrie, a été une expérience que
j'imagine, ouais,
voilà, que j'ai voulu faire.
Jeune femme scientifique de l'année, Nathalie Carrasco, c'est le prix, hein, que vous avez remporté et qui encourage donc une jeune femme qui se distingue par un parcours et une activité exemplaire. Quelle est l'exemplarité de votre parcours alors dans ce domaine de la chimie, hein, vous êtes docteur en chimie, professeur des universités.
Alors l'exemplarité de mon parcours, je ne sais pas, si moi je pense être quand même une très bonne élève initialement, qui aimait beaucoup les sciences depuis toute petite. Hein, mes parents m'ont toujours encouragée dans ce sens-là. Ouais. Être une femme et puis aimer les sciences, c'était pas une anomalie. Et du coup, c'est un peu ça que je suis fière de porter aujourd'hui. Ouais.
Et vous le défendez vraiment, hein ?
Ah oui, vraiment.
C'est-à-dire que vous avez des activités très particulières aussi pour valoriser la place des femmes en sciences ?
Donc en fait, je suis dans une discipline, les sciences planétaires, et donc l'astronomie en général, qui est assez peu féminisée, c'est de l'ordre de 20% en fait, le taux de femmes dans cette communauté scientifique. Donc c'est vrai qu'à certains moments de la carrière, on peut se sentir un peu seul, un peu marginalisé. Donc c'est vraiment important effectivement là-dessus, d'être un petit
Comment
peu...
Comment concrètement vous le faites alors ?
Alors il y a plusieurs actions, hein, que je mène pour ça. En fait, plusieurs échelles. Donc, par exemple, dans mon laboratoire, donc là, c'est vraiment ma communauté scientifique. Là, je ne suis pas toute seule, on a un certain nombre de collègues un peu dynamiques et très motivés. Et donc, on a par exemple monté un réseau de femmes, ouais, pour s'entraider, pour s'épauler, mais aussi pour faire un peu de coaching des jeunes femmes, des jeunes doctorantes et post-doctorantes, pour un petit peu les éviter l'autocensure, pour les encourager, pour, ouais, qu'elles continuent aussi dans le monde de la recherche.
Ouais. Donc c'est vraiment, il y a encore des murs à pousser, hein, j'ai l'impression, hein, quand même.
Oui, alors on va pas parler de souffrance, hein. Moi j'adore mon métier, je suis pas du tout une victime, hein. Mais effectivement, il y a encore des choses, ouais, qu'on peut faire pour amener un nombre de parité qui est quand même beaucoup plus agréable.
Mais vous avez de bons réflexes, hein. D'ailleurs, hors antenne tout à l'heure, je vous parlais d'une émission qu'on va organiser bientôt sur la sonde Rosetta, et tout de suite vous m'avez dit « Ah, j'ai une fille super dans mon labo, il faut absolument que vous la rencontriez ». Mais c'est des réflexes comme ça qu'il faut avoir, et vous avez raison, parce que très souvent, on se heurte à ce problème aussi de trouver des interlocutrices pour parler de science. Alors que c'est vraiment quelque chose dont nous sommes conscients ici dans cette émission, et il y a une vraie difficulté aussi à entendre des voix féminines dans beaucoup de discipline.
Ah ben là, moi, je vous avouerai que je prends le prix également vraiment pour ça. Je suis très heureuse que mes travaux de recherche soient distingués. Mais d'abord et avant tout, pour moi, c'est aussi l'occasion de pouvoir mettre en visibilité et puis aider les femmes dans la recherche et puis dans mon domaine en particulier. Dans ce métier.
Ouais. Sur ce domaine des sciences de l'univers, vous travaillez sur quoi alors exactement ?
Alors, moi, ma grande question scientifique, celle qui me conduit dans mes recherches, c'est ce sont les origines de la vie. Donc, je suis chimiste et ma spécialité là-dedans, ça va être d'étudier la chimie des atmosphères planétaires primitives, c'est-à-dire des atmosphères dans lesquelles il va y avoir une réactivité chimique importante et qui va pouvoir amener à la formation de molécules dites prébiotiques, c'est-à-dire des molécules utilisées par le vivant, des molécules qui ont été propices à l'émergence de la vie. Ouais. Donc on ne sait pas du tout comment la vie a émergé, mais on sait que la vie, elle utilise toujours les mêmes briques. Elle utilise les protéines, les lipides, les acides aminés. Donc vraiment, du point de vue de la chimie, il y a quelque chose qui est unifié et qu'il faut comprendre pourquoi ce sont ces éléments-là et comment est-ce qu'ils sont formés. Et moi, mon hypothèse de travail, il y a plusieurs scénarios pour cette chimie prébiotique. Et moi, celle que je porte, hein, c'est le fait de voir comment les atmosphères planétaires peuvent conduire à cette formation de matériaux primitifs.
Il y a des objets dans le ciel qui vous intéressent plus que d'autres ?
Ah oui, j'ai de loin mon atmosphère préférée,
c'est
moi.
C'est
celle de Titan.
Voilà, c'est ça.
Alors, pour vous situer un petit peu, Titan, c'est le plus grand satellite de Saturne, donc c'est pas tout près, hein, c'est pas la porte à côté, on est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre. Mais pourquoi je m'intéresse à cette atmosphère-là en particulier ? C'est parce que c'est aujourd'hui un des meilleurs analogues qu'on puisse trouver observables de la Terre primitive. Alors, je peux vous expliquer en deux mots pourquoi. Hein. Ouais, elle est très rapide. alors déjà, si on regarde à la pression à la surface, elle est à peu près la même que celle de la Terre. Et en plus, si on regarde la composition, c'est une atmosphère essentiellement faite d'azote, comme la Terre. Il n'y a pas d'oxygène, bien sûr, puisque l'oxygène, c'est vraiment lié au résultat de la vie sur la Terre. Donc, pas d'oxygène sur Titan, mais une chimie de fait prébiotique qui nous permet d'observer au loin, mais la chimie de la Terre primitive il y a longtemps.
Donc une sorte de petite jumelle pour les scientifiques et pour en savoir plus sur cette question des origines de la vie, question essentielle qu'on a abordée d'ailleurs il y a pas très longtemps. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous restez évidemment dans ce club. Françoise Briquet-Châtonnet, donc femme scientifique de l'année, et ça n'est pas rien. Encore félicitations à vous dans le cadre de ce prix Irène Joliot-Curie. Et Nathalie Carrasco, jeune femme scientifique. Xavier Emmanuelli, notre invité dans un instant autour de ce livre, Les enfants des rues. léger, léger Julien Gasque.
La tête au carré. Le club.
Personne pour la Terre ? Mais qu'est-ce qu'on fait ?
Ben comme d'habitude, on n'y va pas. Ça fait 200 ans que ça dure quand même cette année, on devrait y envoyer quelqu'un.
Pourquoi faire ?
Ben rien de spécial, on observe, on se renseigne, on voit ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire.
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
Xavier Emmanueli, vous êtes notre invité médecin urgentiste, cofondateur de Médecins Sans Frontières, fondateur du SAMU Social, et vous rentrez ce matin même du Sénégal, et c'est un scandale de grande ampleur dont vous parlez dans votre livre qui paraît chez Odile Jacob, celui des enfants des rues. Qui sont-ils ? Ce sont ces enfants qu'on peut croiser dans les rues de Paris,
on les croise
par exemple ?
Dans toutes les capitales. Alors évidemment, on regarde plutôt vers les Philippines, l'Amérique du Sud, l'Afrique surtout, mais il y en a partout. C'est pas la même origine, bien sûr, mais ils ont le même comportement. Les enfants des rues à Moscou ont le même comportement que ceux de Guatemala City ou de Dakar, parce que c'est des comportements de survie. Ils s'organisent pour vivre et ils s'organisent tous de la même façon. En somme, moi qui suis clinicien, j'ai beaucoup cherché comment définir, parce que ça n'intéresse pas grand monde, le côté clinique. On peut dire que c'est les codes de survie, qui est la connaissance du corps. Quand personne ne les a touchés, caressés, embrassés, regardés, ils ne connaissent pas leur corps. Donc ils vont vivre en petites bandes, en petites unités. Connaissance du temps, évidemment, il ne se passe jamais rien. Ils sont dans un présent perpétuel, il n'y a pas de projet de futur. Ils sont là. Et la connaissance du code des autres, je rentre, comme vous l'avez dit, de Dakar, essayez de dire bonjour à un petit talibé, un petit enfant des rues, vous tendez la main, il ne sait pas quoi en faire, il la prend, puis il lâche. Le code de politesse, le code de rencontre, ne connaissent pas. Par contre, il y a un code universel, le territoire. Ils sont toujours sur un territoire de survie, le territoire de nuit. Et c'est comme ça qu'on peut travailler auprès d'eux. Dans la journée.
Surtout la nuit, évidemment. Ben, c'est là, justement, qu'ils reviennent sur ce territoire.
Mais on ne peut pas les rencontrer dans la journée où ils sont à leurs petites activités. Des fois, ils sont dans les marchés, tout ça. Puis des fois, un petit peu délictuels. C'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout aimés par les commerçants.
Alors c'est ça, c'est un rejet de ces enfants. Hein. Ce sont des enfants totalement abandonnés par tout le monde.
Sauf par eux. Et c'est pour ça qu'ils vivent en petits groupes. Vous avez des enfants, c'est des petits groupes de 15-20, pas plus. Et dans ces groupes, c'est une seule entité. Avec, il faut lire le William Golding, Sa Majesté des Mouches, qui a prix Nobel de littérature 83. Il a si bien, 1983, il a si bien décrit, c'est des enfants abandonnés dans une déserte, comment ils s'organisent avec un leader.
C'est ça, l'importance du leader dont vous parlez.
Il y a un leader naturel, qui paraît. Aucun groupe n'est organisé autrement. Et le mauvais objet. Il y a un leader et il y a le gars rejeté, mais qui reste dans le groupe. Ça renforce le lien d'avoir ce mauvais objet. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Ils sont, bien sûr, que pour survivre, ils font n'importe quoi. Et du vol, la prostitution. La prostitution à l'intérieur du groupe. Et puis, surtout, les enfants, ils vont et viennent. Et ils sont très, très mal vécus par tous les concitoyens. Alors, la première chose que font les villes, c'est de leur envoyer la police pour l'ordre. Et les enfants jouent à cache-cache avec la police, avec les commerçants. Évidemment, il y a des bonnes âmes et des associations, il y en a plein autour, mais qui ne connaissent pas forcément ce travail de nuit, ce travail au long terme. Et les enfants, leur constante, c'est de vivre dans le jeu. La vie est un jeu, ils sont dans le jeu. Et un enfant grandit dans le jeu. Alors, ils s'amusent à mettre en concurrence les associations, et pour faire un travail sur le fil du rasoir, parce qu'on ne peut pas dire aux autres, non, vous ne travaillez pas là, c'est chez moi. Et ça les amuse beaucoup. Et nos équipes ont bien compris que c'est le jeu. On les fait jouer au ballon, cache-cache. Ils connaissent tous les champions de foot.
Oui.
Ce matin, on m'a dit, Ah ben, les gosses sont arrivés à aller sur le site du SAMU social international, le SAMU social Sénégal, et ils ont posé des questions comme ça.
Et ça, c'est le lien que vous arrivez à créer justement au travers du jeu, hein, pour prendre contact justement avec ces enfants.
Mais c'est long et lent.
Ouais. Xavier Emmanuelli, c'est le grand projet de votre vie, ça quand même. Hein. Vous l'écrivez, après la création du SAMU social et de la clinique de l'exclusion, l'aide aux enfants perdus, donc ceux qui se retrouvent, comme vous les décrivez, hein, livrés à eux-mêmes, dans les rues des grandes villes du monde, vous avez vraiment...
Y compris Paris.
Vous consacrez votre temps avec vos équipes, précisément, du SAMU social international. On a une idée du nombre de ces enfants, en France par exemple. Qu'est-ce que ça représente?
Vous savez, c'est difficile de faire un recensement, parce qu'ils sont par définition furtifs.
Ouais.
Je peux vous dire un chiffre, mais pour ce que ça vaut, hein, c'est l'UNICEF qui écrit, prétendu, qu'il y a 750 000 enfants dans les rues en Égypte, entre le Caire et Alexandrie. Mais c'est pas des enfants qui sont totalement perdus, puisque depuis longtemps ils vivent dans la rue, de la rue, dans la rue, ou en situation de rue. Mais je crois que c'est des chiffres considérables. À Dakar, il y en a peut-être 30 000. Mais comment faire?
Et pour la France, on a une idée ou pas?
Franchement, je ne peux pas vous répondre, parce que je dirais une bêtise.
Ouais.
Personne, je crois, n'a ces statistiques.
Ouais,
parce que la rue est de passage, en principe. On n'est pas fait pour rester dans la rue. Il y a des enfants qu'on connaît ici, à Paris, pas Paris intramuros, qui sont là depuis 3 ans, qui grandissent comme ça, dans la rue. Je ne sais pas comment on peut faire par recensement. Ça demande un énorme effort. Mmh. Au SAMU social, en 2011, on avait fait une grande enquête pour savoir le nombre de gens ayant des problèmes psychiatriques par les SDF. Ça demandait 2 ans, 20 000 contacts, avoir toute une équipe de professionnels. Et quand vous faites une recherche-action, quand vous détectez quelqu'un en danger, vous ne pouvez pas l'écrire comme ça.
Ouais.
Vous êtes obligé de lui porter secours. Et à plus forte raison pour les enfants. Et donc faire ce genre de recherche implique qu'on a des idées sur la suite qu'on va leur donner. C'est très compliqué. J'ajoute que tous les enfants se droguent. Tous. Quelle que soit la drogue, que ce soit... Je sais pas, du LSD, du Valium, du Librium, des somnifères,
de l'alcool.
Ah oui, beaucoup.
Ouais.
Et toutes les variétés. Et les petits enfants de Dakar, ils utilisent le Roche. Vous savez ce que c'est, le Roche? Eh ben rien, c'est le terme générique du laboratoire Roche.
Ah, ouais.
Et qui contient tous les psychotropes.
Ouais.
Donc ils savent très bien les effets. Donc
vous montrez bien cette vulnérabilité évidemment de ces enfants. Très rapidement, Xavier Emmanuelli, les principales raisons de l'exclusion de ces enfants, c'est quoi?
Mais familial. Je crois qu'ils ont manqué d'amour, ils ont été considérés comme des riens. Ils ont été regardés. Vous savez, c'est dès l'enfance. Regardez, la plupart des grands clochards de Paris, ça a été des enfants qui ont été maltraités, mis de famille d'accueil en famille d'accueil. Ils n'arrivent pas à être des hommes complets. Pardon de le dire, mais les enfants ont besoin d'amour et de compréhension. Tout ce qu'ils font, c'est pour la première fois qu'ils le font. Il faut qu'ils soient regardés. Il faut qu'ils soient regardés, entourés. Et c'est une constante de tous les petits-enfants.
Qu'est-ce qu'on peut faire, alors, justement, pour les aider? Parce que vous nous parlez du monde entier, mais en bas de chez nous, il y a des enfants qu'on voit dormir sur des matelas, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut agir à titre individuel?
Oui, bien sûr, et on doit agir.
Alors, de quelle façon, concrètement?
Mais vous savez que depuis 1945, on a pris conscience, il y a des mécanismes de protection de l'enfant. On avait le système de suivi le plus élaboré au monde dans ces années-là. C'était la PMI, il y a l'ASE, il y a plein de dispositifs.
Quel est le réflexe qu'on doit avoir, le premier réflexe?
C'est pas de l'ordre. Les seuls qui peuvent s'en occuper en temps réel, c'est la brigade des mineurs. Mais il y a des assistantes sociales. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas se permettre d'avoir les enfants. Il y a un poète du XVIIIe siècle qui disait: l'enfant est le père de l'homme. Si vous en occupez pas de l'enfance, quel homme ça va devenir? Quel barbare ça va devenir? J'ai vu des enfants soldats, des enfants sorciers. Je vous parle pas des maras en Amérique du Sud qui sont des adolescents qui se tuent. Il y a plus de morts au Salvador avec ces jeunes gens pour le territoire qu'il y en a eu pendant toute la guerre. Donc, il faut regarder ce phénomène. J'invite les médecins à venir travailler et les travailleurs sociaux, mais seulement c'est loin. Et l'exclusion n'intéresse pas la clinique. On nous intéresse au plan de vue social, psychiatrique, la clinique. Et c'est par le soin qu'on commence le travail.
Et vous faites la lumière sur ce scandale. Effectivement, des enfants des rues, une clinique de l'exclusion avec cet ouvrage qui paraît chez Odile Jacob. Merci Xavier Emmanueli. Vous
Merci.
Restez avec nous. Sisters, I'm so excited sur France Inter.
C'est comme une drogue.
Ça permet de remettre le corps en marche et on est plus disponible après pour les autres et pour travailler.
L'avantage de la course à pied, c'est qu'on met ses chaussures dans son sac, sa tenue, on peut courir partout.
Jean-François Dortier, vous êtes directeur de la revue Sciences Humaines et vous publiez Après quoi tu cours, enquête sur la nature humaine, parce qu'évidemment derrière ce phénomène du running, il y a beaucoup de choses à dire sur l'humain, c'est aux éditions Sciences Humaines. Et je ne savais pas que derrière votre grande carcasse, il y avait aussi un coureur. Ça fait quoi, 30 ans que vous courez, c'est ça?
Ça fait 30 ans que je cours, enfin je cours d'abord, depuis tout petit, pour aller d'un point à un autre, moi j'ai toujours couru.
Ah, comme font les enfants.
Et puis je crois savoir que vous courez aussi, et puis j'ai arrêté après l'adolescence, et puis vers l'âge de 35 ans, j'ai recommencé à courir, et puis du coup j'ai pas arrêté.
C'est ça, alors on en a parlé de ce phénomène running, je me souviens juste avant l'été, vous publiez un ouvrage sur la question, et vous avez été interpellé justement un jour, vous le racontiez tout à l'heure, par un SDF. Qui vous demandait après quoi vous couriez.
Oui, et c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est assez mystérieux. Moi j'ai mené l'enquête justement pour savoir, souvent les coureurs eux-mêmes ils ont du mal à expliquer pourquoi ils courent, comme on vient de l'entendre.
Parce que vous les avez interrogés les coureurs.
Bien sûr, j'ai interrogé beaucoup de coureurs autour de moi, je me suis interrogé moi-même,
et on sait
j'ai
pas
interrogé
pourquoi on court,
les sciences humaines. Alors on a des tas de réponses, mais elles sont si variées, parfois si vagues, si générales. Une coureuse, je me souviens, me disait « je cours par plaisir ».
Bah c'est déjà pas mal.
Alors oui, mais attention, moi quand je bois une bière en terrasse, oui ça c'est du plaisir, mais les coureurs savent bien aussi, no pain, no gain, c'est beaucoup de souffrance, la course à pied, on parle d'endurance, on parle de résistance, non, il y a beaucoup d'efforts dedans. Ouais. Certains me disent, j'ai connu un coureur de trail qui a fait le tour du Mont Blanc, là c'est pas du tout le plaisir, beaucoup de souffrance, il disait c'est mon karma. J'ai entendu dire je suis addict à la course, comme si on était drogué. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir quelles sont les motivations fondamentales qui se cachent derrière ces réponses qui sont souvent un peu insatisfaisantes.
Mais ce sont les bénéfices qui créent du plaisir aussi certainement chez ces personnes, non?
Alors, quels sont ces bénéfices justement? Quelles sont les gratifications? Par exemple, il peut y avoir beaucoup de fierté et de gratification morale.
Ah oui, ça joue.
Ça touche à quelque chose de très important chez l'être humain. Quand on voit 40 000 personnes qui se présentent au marathon de Paris, pour pouvoir avoir, donc quand même pas mal souffrir, 42 km 195 mètres, pourquoi? Pour une parcelle de gloire bien anonyme et pouvoir dire « je l'ai fait ».
Oui, et avoir sa belle médaille.
Et avoir une médaille en chocolat qu'on va présenter aux proches et qui vous regardent souvent interrogatifs.
Ouais, Xavier Manuli.
Ah ben je vous écoute avec beaucoup d'attention. Mes deux garçons sont des coureurs comme ça. Et le plus jeune vient de rentrer du marathon de Reykjavik en Islande. Il court. Voilà. Les uns, les deux.
Et pourquoi il court, votre fils?
J'ai justement cette question que j'allais vous poser, parce que moi,
votre fils, il vous a...
Cette interrogation m'a dit les endorphines, vous avez entendu parler, monsieur du baratin.
Oui, c'est une réalité que vivent bien les coureurs. Le phénomène des endorphines, cela dit, il arrive environ une heure après le début de la course, où il y a un phénomène, effectivement, les endorphines donnent une bouffée de plaisir, où le corps connaît pendant un petit moment...
Eh ben, c'est toujours moins à prendre.
Ils m'ont dit les 10 derniers kilomètres. Du marathon.
Alors là, c'est un chemin de souffrance. Ouais. Alors, effectivement, ces marqueurs somatiques sont très très importants. Par exemple, dans les épreuves longues comme le marathon ou comme les trails, il y a des moments très très forts de très très grande souffrance et de très grand plaisir. Alors le marathon, c'est les très grandes souffrances, c'est le mur du 30e kilomètre. Les moments de griserie, c'est le départ. C'est le moment où on est vraiment excité, on ressent vraiment
et le bruit des pas. Voilà, on entend
l'arrivée. On voit les gens qui se tombent les bras les uns des autres, qui se mettent à pleurer toutefois. Ouais. Et ça reste gravé dans le cerveau. Donc ces expériences fondatrices, elles comptent beaucoup. Elles donnent envie d'y retourner. Mais cela dit, il a bien fallu arriver jusque là. Donc il fallait une raison au départ
Nathalie Carrasco. Alors, est-ce que vous courez vous?
Ah oui, je cours, mais ce qui m'inquiète dans ce que vous dites, c'est qu'en dessous de l'heure, il n'y a pas de plaisir, c'est ça?
Non, j'ai consacré un chapitre entier justement aux différentes variations du plaisir qu'il y a. Alors, en général, quand on commence à courir, il n'y a pas beaucoup de plaisir pour les débutants. Hein. Moi, je me souviens quand j'ai repris le premier kilomètre, je pensais, j'avais dans la tête le coureur adolescent. Ouais. Et au bout de 200 mètres, j'avais les mains sur les genoux, j'étais cassé en deux, un point de côté, les joues en feu. Donc, il faut quand même un certain temps pour qu'on commence à découvrir des moments de bien-être. Et puis, il y a des gradations dans le plaisir. Il y a des moments où on est bien, on court le dimanche matin, l'air est frais, l'air est doux. Donc, on a des moments de sérénité. On parle pour certains d'un flow. C'est-à-dire des moments aussi où là, les endorphines arrivent. Il y a même, mystérieusement, certains parlent d'une sorte d'extase mystique qui arriverait pour les coureurs de très très grands.
Ça, c'est Françoise Briquel-Châtonnet qui va pouvoir nous renseigner peut-être là-dessus.
Running high, qui serait quelque chose comme l'équivalent de ce que connaissent les chamans ou les yogas qui se font beaucoup de mal pour arriver à des formes de transe.
Oui, mais on peut finir avec si on court en acidose, on peut finir avec un arrêt cardiaque. Ça s'est vu.
C'est ce que vous racontez d'ailleurs, parce qu'au départ, l'engouement pour le footing aux États-Unis était basé sur la promotion du sport pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et puis certains sont morts d'avoir trop couru.
Certains sont morts, bien sûr. Par exemple, James Fix, qui était un des gourou de la course à pied, qui a écrit l'Encyclopédie of Running, qui lui avait commencé à courir parce qu'il fumait deux paquets de cigarettes par jour et puis qui faisait plus de 100 kilos. Il a perdu 27 kilos. Il s'est mis à écrire des livres en disant regardez mon exemple. Et puis un jour il s'est retrouvé mort de la course à pied. Il y a quand même 1500 morts par an en France dans le sport. Il faut le savoir.
Dans le sport,
donc ça fait beaucoup de bien pour le corps. Et il y a aussi, bien sûr, des gens qui ont meurent.
Quand on va au-delà de ses limites. Où elles sont les limites?
Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que la course à pied, on ne sait pas où sont les limites. C'est un peu comme l'apnée. Vous savez, quand Jacques Mayol plongeait à 60 mètres, on disait on ne pourrait pas aller plus loin. Ouais. Quand il y a eu le premier marathon de New York en 1970, ils étaient 177 au départ,
ridicule.
55 à l'arrivée. Et on les prenait pour des surhommes et des fous à la fois. Aujourd'hui, dans toutes les grandes capitales plus les villes moyennes, il y a des dizaines de milliers de participants, des jeunes, des plus vieux, des femmes, des hommes, qui courent. Alors, aujourd'hui, les limites, donc le marathon, c'est presque plus rien. Donc, vous n'êtes plus un héros, même quand vous êtes un marathon, donc vous pouvez faire un 100 km.
Ouais.
Ou alors, la diagonale des fous à La Réunion. Et là, les limites sont tellement... On ne les connaît pas. actuellement vient d'être remis en place, la Transamérica, 6000 km entre Los Angeles et New York.
Toujours plus loin, toujours plus fort. Il y a une espèce de surenchère en ce moment. Est-ce que ça correspond à quelque chose de physiologiquement ancré dans l'humain, le fait d'avoir besoin de courir, Jean-François Dortier?
Alors, il y a une thèse qui a eu une certaine popularité aux États-Unis il y a quelques années, qui s'appelle Born to Run, qui part de l'idée que l'être humain serait naturellement construit pour courir, parce que ça viendrait du fond des âges, l'évolution, où les humains seraient mis à courir, non pas pour échapper aux prédateurs, mais pour attraper des proies au long cours. Donc, c'est une thèse intéressante. Elle me paraît discutable de penser qu'aujourd'hui on courrait uniquement parce qu'on a été façonné par nos ancêtres du passé. Cela dit, ce qui est certain, c'est que notre mode de vie n'est pas du tout adapté, de sédentaire, n'est pas du tout adapté à notre constitution biologique qui, elle, réclame de l'activité physique.
Xavier Emmanuel.
Juste un tout petit mot, juste pour remettre sur la table le nom d'un maître qui était un grand chirurgien qui s'appelait Henri Laborite.
Oui.
Et qui a écrit Éloge de la fuite.
Oui.
Et qui est un des fondateurs de la médecine d'urgence, du choc. Et les gens l'ont oublié, mais c'était un grand scientifique, et un poète, un philosophe, et un grand soldat aussi.
Oui. Alors cela dit, est-ce qu'on fuit quand on court? Alors je pense qu'il y a aussi un autre aspect qui est assez intéressant dans cette fuite, c'est que la course à pied permet au moment effectivement de s'évader aussi beaucoup du monde ordinaire, du poids pressant qu'il porte sur nos épaules, les contraintes professionnelles, les contraintes familiales, ça. Et le temps d'une sortie, en mettant un short, en mettant ses baskets, on peut s'échapper et revivre des petites aventures en minuscules. Et ça, c'est un grand bénéfice.
Et on lira entre autres dans votre livre Le destin extraordinaire de Steve Préfontaine, qui a été un coureur absolument incroyable. C'est passionnant, qui est mort à l'âge de 24 ans. C'est un peu le James Dean de la course à pied. Après quoi tu cours, enquête sur la nature humaine. Jean-François Dortier, ce livre est sorti hier aux éditions Sciences humaines, affaires sensibles, ce sera dans un instant avec Fabrice Drouel, avec au menu de la fiction du vendredi, le réalisateur Jacques Demy.